belle planète.
Non, rien n'est dû au hasard. L'homme n'est vraiment pas net. L'homme n'est vraiment pas net.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode du mois de janvier, de février pardon, j'ai un mois de retard en presque. De février de Cheminons dans la transition, l'émission sur Radio Fil de l'eau en total partenariat avec Ligette, avec Lille Jourdain en transition et nos deux animatrices stars. Maintenant c'est terminé, je ne vous présente que comme ça, Cynthia et Pauline qui sont là aujourd'hui. Bonjour à toutes les deux, comment ça va?
Bien toi?
Ça va bien, merci. Ça va Pauline?
Ouais.
Pris de l'ORL un peu, hein, voilà. C'est la même animatrice, peut-être elle aura une voix un peu différente aujourd'hui, mais ouais, c'est la même. On est parti pour un sujet, donc restaurant, hein, son pouvoir personnel. Ça va être ça le sujet un peu de l'émission du jour. Hein.
Exactement.
Et bah allez, c'est parti, je vous laisse la parole, mesdames.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, restaurer son pouvoir personnel?
Bonne question.
Fait, si on réfléchit, depuis notre plus petite enfance, on nous dit de faire quelque chose. Où les savoirs, ils viennent de l'extérieur. C'est la maîtresse qui décide ce qui est bon pour nous ou pas. C'est les parents qui décident de ce qui est bon pour nous ou pas. Et quand on va à l'école, on peut même pas manger, boire, dormir quand on en a besoin. C'est l'extérieur qui décide à notre place de ce qui est bon pour nous. Donc du coup, on s'aperçoit que toute l'éducation est définie et est faite pour être intégrée comme la société le demande, en fait.
Une modélisation.
Oui, une standardisation, et on est censé répondre à la norme. Et du coup, eh ben, la question qu'on peut se poser, c'est « et moi là-dedans ?» Et moi, qu'est-ce que j'aime vraiment ? Qu'est-ce que je ressens ? Comment je suis avec ça ? Quels sont vraiment mes goûts ? Et est-ce que parce que tout le monde s'habille en gris autour de moi et que les couleurs disparaissent, que moi, j'ai pas le droit de porter mon orange qui me plaît tant ou mon jaune qui me plaît tant? Et du coup, c'est ça, restaurer son pouvoir personnel, c'est sortir de ce que la norme veut nous imposer pour aller à la recherche, à la quête de qui on est en fait et de qu'est-ce qui nous fait vraiment bouger à l'intérieur.
Le libre arbitre.
Le libre arbitre complètement. Et du coup, quand on va vers soi, on va sortir du rapport de domination, parce qu'il y a toujours le professeur sait et nous on est censé apprendre, mais ça se reproduit à toutes les échelles. Le patron sait pour l'employé, le président sait pour son peuple, enfin à tous les étages on est dans un rapport dominant-dominé. Et quand on prend son pouvoir personnel, on sort complètement de ça et on sort aussi du sentiment d'impuissance, de victime. Qui sont nombreuses pour les femmes. Hein, c'est,
ça, c'est... Bref. L'un n'empêche pas l'autre.
Et en plus, les injonctions contradictoires. Donc, si on prend le cas des femmes, il y a toutes ces injonctions contradictoires où si on va bosser, on se fait critiquer parce qu'on ne va pas éduquer les enfants. Si on éduque les enfants, on se fait critiquer parce qu'on ne va pas bosser. Enfin, voilà, il y a plein de... On doit censé prendre soin de notre corps, on est censé se maquiller. Enfin, je ne sais pas. Enfin, il y a plein d'injonctions comme ça. Et une fois qu'on se libère de tout ça, on va vraiment vers soi et on retrouve son pouvoir personnel et on est capable d'aller sur son propre chemin. Parce qu'en fait, avec tout ce système de fonctionnement, on est coupé de soi en fait. On est coupé de soi et on ne connaît pas nos ressentis, nos goûts, notre personnalité et on se perd dans l'injonction. Et on passe à côté de soi. Et ça, c'est grave. En tout cas, pour moi, ça me semble très grave. Et du coup, on peut même arriver dans un fonctionnement. Alors là, excusez mon allemand, je ne fais pas allemand première langue. The Ansprache. Et ça, c'est un terme qui explique le fonctionnement bureaucratique. Donc, en fait, c'est... retrouver son pouvoir personnel, c'est reprendre la responsabilité de sa vie. Et je reviens à mon Ansprache, parce que l'Ansprache, c'est le dialogue bureaucratique. C'est ce qui a été utilisé selon la Deuxième Guerre mondiale et qui a permis que les personnes fasse des actes simplement parce que on était obligé de le faire.
C'était les ordres, quoi.
C'était les ordres. Le chef a demandé que. L'État obligé, c'était la loi. Et du coup, on se retrouve à faire des actes qui ne sont pas alignés avec qui on est, simplement parce qu'on répond à cette injonction. Et retourner vers soi, c'est vraiment prendre la responsabilité de sa vie. Et là, j'avais des petits exemples, par exemple, de dans quel état on prend pas, on nie notre responsabilité. Donc, prendre sa responsabilité dans sa vie, c'est vraiment repenser les choses de façon totale. C'est comment je me soigne, comment je me nourris, quels sentiments je valorise, qu'est-ce que je nourris dans tous les aspects de ma vie. Et donc, des choses comme j'ai nettoyé ma chambre parce que j'étais obligée, je bois parce que je suis alcoolique, j'ai frappé mon enfant parce qu'il courait dans la rue, j'ai menti au client parce que le patron me l'a demandé. Voilà, tout ça, c'est des choses où on ne prend pas la responsabilité de ses actes. C'est des choses où on répond à cette injonction de la société qui nous dit, de cette autorité. Et du coup... Nous, avec Pauline, on a trouvé que c'était vraiment important de faire cette émission où on allait parler de restaurer notre pouvoir personnel et reprendre la responsabilité de notre vie. Alors, c'est un processus. C'est un processus quand je prends la responsabilité de mon rapport à moi, à l'autre et à la société. C'est un processus qui favorise le langage du cœur et qui est dans le respect et de l'amour. C'est retrouver mon esprit critique, avec la capacité de penser par moi-même. C'est contribuer à un projet de société qui nourrit respect, coopération et la paix. Donc, c'est pas un petit truc, finalement.
Non, c'est sûr.
Et ça peut prendre... ça peut paraître impressionnant, comme ça, mais c'est dans des choix de tous les jours. C'est des petits gestes qui font que c'est facile à faire. C'est juste un choix à prendre et puis faire pas à pas des pas vers ce chemin-là, dans ce chemin-là. Et puis, c'est aussi retrouver sa souveraineté. Et ça, il n'y a pas de prix.
Ça, c'est clair.
La souveraineté, je le répète, c'est décider pour soi de ce qui est juste pour soi. C'est-à-dire que je prends la pleine responsabilité de ma vie et personne n'a du pouvoir sur moi. Personne ne peut m'imposer ses choix. Parce que je suis dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme, capable de décider ce qui est aligné avec mes valeurs et avec qui je suis. Alors, par exemple, quand je suis souveraine, les ressentis que je peux avoir, c'est de la sécurité. Je suis responsable de ma vie et j'accueille toutes mes émotions. J'exprime ma vérité, je ne suis pas responsable des réactions des autres, je suis libre, je suis dans ma résonance, donc vraiment alignée avec qui je suis, je crée et choisis ma vie et j'accueille les autres comme ils sont. Parce que du coup, ça n'a pas d'impact
bien
sur
sûr.
Qui je suis. Ils font leur truc. Ça donne envie, non?
Ça fait rêver.
Et donc, pour parler de ça, on va utiliser la CNV. La CNV, c'est la communication non violente. Et en fait, on va voir qu'on peut l'utiliser pour soi comme pour l'autre. Mais d'abord, avant tout, dans un pouvoir sur soi. Mais avant, je pense que Pauline veut nous parler de différentes communications.
Oui, parce que dans le CNV, il y a communication. Et la communication, c'est au centre de toutes les relations humaines. Communiquer, c'est pas seulement parler, c'est transmettre un message, c'est le faire comprendre et surtout le faire retenir. Et justement, dans les études en communication, on montre que le message transmis n'est pas toujours le message reçu.
Okay.
Donc, la communication, ça repose sur un schéma simple. C'est de la théorie de la communication. On a un émetteur, donc celui qui émet le message, qui envoie un message, donc à un récepteur, celui qui écoute. Et c'est à travers un canal, donc l'écrit, le parler, le téléphone, le SMS, et à travers un code aussi, c'est-à-dire le langage, le dessin, enfin le langage des signes, enfin voilà. Et dans un contexte donné aussi, un environnement ou un état, une posture dans laquelle tu es. Mais ce processus, il est fragile parce que selon plusieurs études en sciences de la communication, on a moins de 50% du message initial qui est réellement compris. Et parfois même 10% seulement sont retenus sur le long terme. Donc surtout lorsque le message est complexe ou mal adapté en fonction du public. Et en plus, on a aussi dans le contexte environnant, on peut avoir des bruits. Donc les bruits sonores, je t'imagine, en salle de concert, tu ne vas pas pouvoir t'exprimer de la même manière que dans une salle, dans une réunion face à face, où il n'y a pas de contraintes sonores. On a aussi l'état psychologique dans lequel tu es. Si tu es en colère, tu ne vas pas t'exprimer de la même manière que si tu es calme et posé. Et il y a le culturel aussi, où on n'a pas les mêmes codes de communication selon les cultures. Donc ça perturbe la transmission et ça explique aussi les pertes d'informations. Faut que je reprenne mon souffle. La communication, il y a trois niveaux. Il y a la communication verbale, ce sont les mots, c'est le sens de ton propos. Et les chiffres montrent qu'il y a des limites. Les mots, ils représentent environ 10 à 15% de l'impact du message.
Okay.
Donc en fait, dans juste les mots, juste l'écrit, par exemple, ben, on n'aura pas toute l'information. C'est pour ça, par exemple, à la radio, on n'a que le son.
Et oui.
Et du coup, là, on essaie d'avoir des phrases simples, courtes, structurées, pour que ça soit mémorisé par celui qui est à l'autre côté de son poste. On a un autre niveau, c'est la communication non-verbale. Donc le non-verbal, c'est les gestes. Là, on ne le voit pas à la radio. On fait plein de gestes. Tu ne sais encore plus que moi. Ben, ça, c'est le culturel. On a l'expression du visage, un sourire, un regard vague, un regard fixe, une posture en avant, en arrière. Enfin, ça, c'est des techniques qu'on apprend beaucoup dans les entretiens d'embauche.
Les bras croisés.
Donc ça transmet beaucoup d'informations et on estime, selon un psychologue, Albert Behrabian, que 55% du message est envoyé par le non-verbal.
Okay.
Donc on a aussi, là on l'entend à la radio, c'est la voix, l'intonation. Donc ça c'est la communication paraverbale. Le ton, l'intonation, le rythme, quand tu es stressé, tu parles très vite, tu ne vas pas forcément te faire comprendre parce que tu parles très vite. Mmh. Ou quand tu es calme et posé, avec une voix douce et agréable, tu as plus envie d'être écouté. Enfin, on a plus envie de t'écouter. Donc là, c'est 30 à 35% du message qui est reçu par le paraverbal. Donc, par exemple, la radio, toujours l'exemple, c'est une voix monotone qui parle comme ça et qui raconte une histoire. Est-ce que tu as vraiment envie de l'écouter jusqu'au bout ?
Tu décroches vite, quoi.
Pas sûr. Voilà, donc en fait, en résumé, bon, les études montrent qu'on a donc seulement 10 à 15% du message qui passe par les mots, près de 90% par la voix et le non-verbal, et une grande partie du message n'est pas réellement retenue par le récepteur. Et donc, on peut dire une chose essentielle, donc que ce qui compte, c'est pas seulement ce que l'on dit, mais c'est la façon dont on le dit. Et donc, là, on peut vous laisser méditer avec la chanson de Tilassine, Shark Island.
Thank you.
Et vous êtes toujours dans Cheminons, dans la transition sur les ondes de Radio Fil de l'eau, l'émission en total partenariat avec l'île Jourdain en transition avec l'IJET. Tu voulais nous parler un petit peu du morceau qu'on vient d'écouter, Pauline?
Ouais, et la musique, c'est un très bon canal de communication.
Ça, c'est
je
ne
sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi. Ouais, Shark Island de Tilassine, je voulais revenir dessus parce que c'est un exemple de la manière dont la musique peut être utilisée comme un moyen de communication et un moyen d'expression culturelle ou une histoire. Parce qu'en fait, l'histoire de Shark Island, elle est impressionnante. Et moi, je connaissais pas. Et quand j'ai écouté le morceau, j'ai été envahie de frissons. Et après, en écoutant, en lisant, donc c'est Shark Island, c'est une petite île qui est en Namibie. Entre 1905 et 1907, elle a été transformée en camp de concentration par l'Empire allemand au cœur du génocide des peuples autochtones, Herero et Nama. Et le camp a servi également en laboratoire précurseur de ce qui deviendra plus tard l'idéologie nazie. Okay. Il y avait certaines femmes emprisonnées qui étaient obligées de gratter les crânes de leurs proches assassinés pour les envoyer aux universités allemandes pour les étudier et faire une preuve de la suprématie de la race blanche. Donc les paroles du morceau, moi j'ai pas pu les trouver, mais elles sont inspirées par des récits qu'il a entendus, que Tilassine a entendus lors de son voyage à Shark Island. Et elles ont été relues, approuvées par un chef Nama. Il a collaboré avec un chœur de chanteurs Nama. Et il a été enregistré dans une église construite par les Allemands. Donc il y a toute une symbolique assez impressionnante sur ce morceau. Voilà, donc j'avais envie de raconter l'histoire. Et n'hésitez pas à aller voir ce que le travail de Tilassine, il est vraiment, vraiment très intéressant.
Oui, je voulais rajouter, je me permets, parce que c'est un artiste que je suis pas mal et que je connais beaucoup. Et c'est ça, il a des projets donc, qui s'appellent Roads, en anglais 1, 2 et 3. Et c'est tous des projets où il va en fait dans un pays avec son 4x4 et sa caravane derrière, en fait, avec tout son matos d'enregistrement dans la caravane à l'arrière. Et il se promène vraiment dans ces pays-là. Et il va enregistrer justement, comme tu dis, les populations locales, les gens, les tribus. Celui-ci, donc le 3, a été créé 100% en Namibie. Il y a une dizaine de morceaux. Il a été rencontré des tribus qu'il a enregistrés, etc. Dont ce morceau-là. Le 2 avait été fait du côté de la Turquie, des Anatoliens, etc. Pareil. Et son tout premier album, le Transsibérien, bah, pareil, là, il était monté dans le train. Il avait traversé la Russie. Et il y a vraiment toute cette création derrière où il va à la rencontre des gens qu'il croit sur son trajet de tous ses voyages et il en tire des choses comme ça. Donc voilà, c'était. Allez vous pencher dessus parce que ce soit les histoires des albums ou la musique qu'il crée, parce qu'en plus, c'est très sympa. Donc voilà, n'hésitez pas. Ouais. Je t'en prie, je te redonne la parole.
On revient à notre mouton, c'était la communication. Donc en fait, on a vu qu'on avait une perte de message et c'est souvent l'origine des malentendus ou des mauvaises compréhensions entre deux personnes qui communiquent. Et donc il y a une approche qui s'est développée pour améliorer cette qualité des échanges et on appelle ça la communication non violente, CNV
pour les intimes.
Donc c'est développé, ça a été créé par le psychologue américain Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg, il est né en 34, il est décédé en 2015. C'est un psychologue clinicien américain et il a surtout été médiateur international et un grand militant pour la paix. Il a grandi à Chicago dans un contexte de violence sociale et raciale importante. C'est ce qui a profondément marqué sa réflexion. Très tôt, il s'est demandé mais pourquoi les êtres humains se font souffrir, mais pourquoi et comment on peut apprendre à vivre ensemble de manière plus pacifique. Donc en fait, c'est son leitmotiv, son fil rouge de sa vie. Et il a étudié la psychologie sous la direction de Carl Rogers, qui a une approche très humaniste de son travail. Donc ça a influencé Marshall Rosenberg dans la pratique de son travail.
Okay.
Et je voulais revenir sur son engagement pour la paix. Il a consacré donc sa vie à la prévention et à la transformation des conflits, aussi bien conflits familiaux qu'éducatifs, conflits institutionnels. On parlait des écoles, des prisons, les entreprises qui sont dans des injonctions contradictoires souvent, les conflits sociaux et politiques. Et il a aussi œuvré en zone de guerre ou en post-conflit où il essayait de faire comprendre des gens qui ont été adversaires, quoi, Moyen-Orient, Rwanda, dans les Balkans. Donc il intervenait comme médiateur et formateur. Il était convaincu qu'une paix durable ne peut exister sans la transformation profonde de la manière dont nous communiquons. Donc son héritage, c'est le centre de Nonviolent Communication Center. Donc voilà, il a créé un centre, et du coup ça a été l'entrée pour la formation de milliers de formateurs CNV dans le monde. Et la CNV est aujourd'hui utilisée en éducation, en médiation, en thérapie, en justice restaurative, en entreprise, en militantisme non violent. Et son œuvre principale, c'est les mots sont des fenêtres ou bien sont des murs. Et après, il a décliné en différents okay. ouvrages.
D'accord. On en avait parlé dans une des émissions
il y a
une petite année à peu près. Hein, on avait même diffusé un morceau, si je ne me trompe pas, de Marshall Rosenberg, je crois.
On l'avait déjà fait.
Il me semble. Mais là, ouais, non, mais là, on va être sur autre chose, justement, une autre version. Mais il me semble qu'on avait diffusé un morceau, justement.
Oui. En fait, pour moi, alors, ce que je voulais préciser sur la CNV, on appelle ça la communication non violente, mais l'idée du non violent, c'est vraiment à partir de l'idée de Ahimsa, c'est-à-dire le terme indien. Qu'on utilise aussi dans le yoga, qui est l'endroit où la violence n'existe pas. Donc c'est pas en opposition à la violence, c'est créer l'endroit où la violence n'existe pas. Et oui, on revient cette année sur le sujet parce que, enfin, moi quand je vois la situation mondiale, internationale, je suis avec le cœur brisé quasiment systématiquement et je suis toujours en train de me dire comment moi je peux agir. Alors bien sûr que je peux pas arrêter des conflits internationaux, mais peut-être que je peux travailler à arrêter les conflits à l'intérieur de moi et avec mes proches et avoir une parole qui porte... un message de respect et d'amour dans la société. J'y arrive pas tout le temps, mais en tout cas, c'est le but, c'est l'objectif. Et donc, du coup, la CNV, quels sont ses bienfaits ? Eh ben, comme je disais, c'est vraiment reprendre la responsabilité de sa vie. Et avant tout, c'est mieux se connaître. C'est vraiment mieux se connaître et se respecter. Ça, c'est le gros défi. C'est se connaître et se respecter. Enfin, c'est pas un défi, mais c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué dans notre vie habituelle, enfin, dans notre vie de tous les jours. Depuis le plus jeune âge, on nous dit qu'il faut être meilleur que l'autre et que si on n'est pas le meilleur, eh ben, on est mauvais. Je sais pas quels sont les qualificatifs qu'ils peuvent donner pour ça. Mais en tout cas, ça nous aide pas à avoir du respect et de l'amour pour qui on est, pour qui on est exactement comme on est. Et puis, bien sûr, c'est contribuer à un projet de société qui respecte le vivant et qui est ce qui est vivant en chacun. Donc, ça met plus de douceur dans le rapport à soi, à l'autre, et aussi dans notre vie, en fait. Donc, quelle est la méthode de cette CNV ? D'abord, il y a l'observation. Donc, elle se décline en 4 points. Ce qu'on appelle OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. L'observation, c'est... une phrase qui décrit ce qui est. Par exemple, Cinzia, tu parles trop fort, ce n'est pas une observation. C'est un diagnostic.
Oui, c'est un constat.
C'est un constat. C'est pas un constat, c'est un diagnostic. Okay. Le disque là est noir, ça, c'est une observation. Parce qu'il y a un disque et il est noir. Donc, l'observation, c'est vraiment dénué de tout qualificatif qui donne notre sentiment, notre impression, notre jugement sur la situation.
C'est ça, c'est vraiment le côté observation clinique du
oui,
truc, en fait, c'est ça.
C'est ça.
Moi, je me rappelle,
tu portes un t-shirt blanc. Voilà,
c'est ça.
C'est un fait.
On avait fait ça quand j'étais en formation d'éducateur spécialisé. Justement, ils nous avaient envoyé dans Toulouse à des endroits, à la gare, etc. Et fait prendre des notes, un maximum de notes sur les gens qu'on croisait, sur ce qu'on observait et tout. Puis voilà, ils nous disaient, non, ce monsieur ne marche pas vite. Tu n'as pas l'impression qu'il est pressé parce qu'il marche vite et qu'il regarde sa montre. Tu vois quelqu'un qui avance, qui regarde sa montre, mais c'est tout. Tu sais pas pourquoi. Il y avait vraiment enlevé tout un maximum de subjectivité aux choses et vraiment d'être, comme tu dis, juste dans l'observation, quoi, en fait. Et c'est hyper intéressant parce qu'on se remet beaucoup en question de dire, ah ouais, mais non, moi, j'en sais rien, en fait. Effectivement, s'il est pressé, ce gars, peut-être il a vite envie de, on sait pas. Et oui, il marche vite, il regarde sa montre. Point. Ça veut rien dire de plus que
c'est
ça.
Exactement,
quoi.
Ça. Et l'observation, c'est hyper difficile à faire parce que à la base, on a envie de mettre des jugements. Ouais. Par exemple, dans un échange comique que j'ai eu avec Pauline hier, elle disait ouais, il y a des gens qui parlent fort pour s'affirmer. Et moi, je lui ai répondu, ben non, en fait, peut-être que c'est ma culture, j'en sais rien, mais j'ai un débit vocal, donc j'ignore l'intensité des décibels, et je suis comme ça. Je ne le fais pas pour ou contre quelque chose, c'est certainement pas pour me donner de l'importance. Après, bon, j'ai remarqué que c'est utile en manif et j'aime faire les manifs. Donc,
j'ai cet avantage aussi.
Du coup, c'est sympa, tu vois, pour les manifs, c'est cool. Mais sinon, il n'y a pas de... Je ne le fais pas exprès et dans
ça,
un but
précis. C'est ton volume, quoi.
C'est juste mon volume.
Je sais tout à fait vraiment de quoi on parle. On est sur un sujet que je maîtrise.
Donc, du coup, l'observation, c'est vraiment un travail. Et donc, dans « Les mots sont des fenêtres ou des murs », il y a vraiment plein d'exercices pour vraiment aller dans l'observation la plus simple.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment compliqué.
Ouais, c'est vraiment,
parce qu'on a toujours envie de mettre un diagnostic, de mettre un jugement. On a toujours envie de ça.
C'est sûr.
Et puis, la deuxième phase, c'est le sentiment. Alors, vous ne savez même pas à quel point c'était compliqué de trouver une définition du mot sentiment.
Sentiment.
Quoi. Alors, en fait, on vit quelque chose et puis ça va provoquer un truc en nous. J'en suis arrivée à ça comme
sacrée définition. C'est d'une précision. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile. En même temps, je mets au défi chacun sans écouter ça. Vas-y, si on te dit qu'est-ce que c'est un sentiment, définis-nous un sentiment, quoi.
Voilà. Donc, alors après, d'abord j'ai essayé par moi-même et puis je me suis dit, bon, Marshall a forcément écrit quelque chose là-dessus. C'était quand même. Voilà. Donc, en fait. Il dit « Les sentiments sont la deuxième composante de la communication non violente pour dire ce qui se passe en nous. Pour communiquer cela, il est bon que nous soyons conscients de ce que nous ressentons pour le verbaliser et développer un vocabulaire affectif. Cette communication est nécessaire à l'épanouissement de la confiance et de la sécurité. » Donc en fait, même là, il ne définit pas. Il dit que c'est des choses qui se passent en nous et qui explique des choses. Par exemple, nos sentiments vont nous donner des informations sur notre degré de bien-être ou des informations plus « Ah bah tiens, j'ai le ventre qui gargouille, j'ai faim.
Ouais.
Ah bah tiens, j'ai la langue sèche, j'ai soif. » Donc voilà, ça peut être des ressentis comme ça, physiques, très clairs par rapport à mes besoins primaires. Et puis ça peut être aussi... Oula, là, je viens d'avoir une conversation et je me sens plombée, quoi. Alors, je vais écouter les ressentis de mon corps. Et là, ben, je vois que, alors là, cette conversation, ça m'a pas du tout nourrie parce que je me sens impuissante ou je me sens triste ou je me sens ça. Et puis, d'autre côté, parfois, par exemple, là, on a eu une conversation juste avant la réunion, et je me sens joyeuse, je me sens en relation, et je me sens appartenir à un groupe où on peut se parler et on se comprend, quoi, on partage les mêmes valeurs, donc il y a un côté appartenance qui est cool. Et voilà, et donc ça demande vraiment de développer tout le rapport à son corps déjà pour pouvoir identifier cette sensation là ça veut dire ça, et cette sensation là ça veut dire autre chose, et puis une fois qu'on a ressenti le ressenti, oh ça c'est profond comme phrase, ça c'est en le disant je sens la puissance philosophique du truc. Et donc quand on a ressenti le truc, du coup, voir quel est le sentiment qui va avec, et ça demande vraiment d'élargir notre champ de connaissances par rapport à nos sentiments, parce que généralement on va bien ou pas bien. Et c'est un peu limité pour connaître tout
la
panel de nos ressentis.
C'est
clair. C'est vraiment important de faire ce chemin-là. Et donc, vous trouverez sur les sites de communication non violente un matériel vraiment très bien fait avec des listes. Les mots sont des fenêtres ou des murs, il y a cette liste de sentiments, de besoins pour savoir ce qui... pour pouvoir les identifier. Ouais.
Et puis je trouvais important aussi justement de préciser qu'il faut aussi du coup pour pouvoir se connaître et connaître les sentiments, déjà peut-être effectivement les mots mais aussi la manière dont on les ressent, de les traverser pour de vrai aussi quoi, c'est-à-dire qu'effectivement parce qu'on traverse tout le temps le positif hyper bien, et ça il n'y a pas de souci, mais aussi pour se connaître soi-même, connaître ses limites et savoir, il faut aussi malheureusement se laisser traverser parfois par ce qui est négatif pour pouvoir savoir où mettre nos limites plus tard, pour savoir ce que l'on ressent, quand on le ressent, et de vraiment traverser les choses et de ne pas esquiver malheureusement aussi ce qui peut être parfois plus difficile à traverser, plus négatif, plus compliqué, négatif et encore c'est un terme qui peut-être n'est pas forcément juste, tu vois, en tout cas plus compliqué plus compliqué à traverser. C'est sûr qu'on va traverser plus facilement le bonheur que la tristesse, en tout cas si on parle vraiment de sentiments, mais se laisser aussi des fois traverser par la tristesse, la colère ou les choses qui vont réveiller d'autres choses à d'autres moments en nous, afin de les connaître et de se connaître du coup.
Oui, et effectivement toutes les émotions sont valables et on peut faire le
oh là ça chante
oui exactement merci de me remettre à ma place. Parfait. Effectivement, la proposition c'est de traverser toutes les émotions et de respirer dedans, parce que d'abord je peux ressentir la tristesse, mais je ne suis pas la tristesse. Mon émotion ne me définit pas. Déjà, ça, c'est important, je suis bien autre chose. Et mon comportement ne me définit pas non plus. Du coup, c'est important de dire aussi aux enfants le comportement qui nous dérange et non pas « tu es ».
C'est ça, c'est ça.
Voilà. Donc, après, les sentiments, donc, on ressent des sentiments parce qu'on a des besoins. Et les besoins... c'est aussi une liste de... C'est difficile d'avoir une vraie définition, mais en fait, chaque être humain a des besoins et c'est vraiment important de l'identifier, parce que identifier le besoin, c'est identifier l'origine du sentiment, c'est comprendre que la parole ou l'acte d'autrui peuvent être un facteur déclenchant, mais pas la cause de mon sentiment. C'était clair ?
Ah oui, c'était ça très clair.
C'est pas la raison de ton sentiment.
Exactement. Et donc, les besoins, c'est pareil. Y a toute une liste à lire, à étudier, de manière à pouvoir sentir ce qui se passe. Par exemple, si je suis stimulée par une conversation, je prends celle de ce matin. Ok. Cette conversation de ce matin, ça m'a mis en joie. Ok, je sens, je goûte la joie à l'intérieur de moi. Quel était le besoin ? Le besoin de partage, le besoin de lumière parce qu'on était au soleil, le besoin d'appartenance, le besoin d'échange, le besoin de sécurité aussi, et je l'ai senti parce que quand je parle à quelqu'un avec qui je suis en confiance, je me sens en sécurité. Et vous voyez qu'une simple conversation de, 10 minutes peut répondre à beaucoup de besoins. Et en même temps, il y en a d'autres, elles peuvent aussi ne pas nourrir énormément de besoins. Ça dépend avec qui on parle et comment on parle. Et donc, c'est vraiment important de mettre le point sur quels sont les besoins qui nous animent. Et bien sûr qu'au départ, se lancer dans la CNV, c'est vraiment un peu théorique, parce qu'il faut avoir... le petit document avec les sentiments, les besoins, parce qu'on est là en train de se demander et on n'a pas la réponse. Mais plus on pratique, plus c'est facile de pouvoir dire « Là, c'est bon, je suis en joie, quoi. » Et ça nourrit ça. Et là, par contre, je suis découragée. C'est juste impossible. C'est juste un apprentissage.
Et savoir mettre des mots sur les besoins hein, aussi. Oui. Ça, c'est quelque chose de très important parce que souvent, c'est quelque chose qui revient de dire, mais je sens, enfin, j'ai besoin de quelque chose. Enfin, je sens que je suis pas forcément bien là dans la situation dans laquelle je me trouve, quoi, mais j'arrive pas à savoir quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que c'est dont j'ai besoin là, à l'instant T? Et de savoir l'exprimer aussi souvent. Parce que des fois, on va faire payer aux gens qui nous entourent, un manque, mais on l'a jamais exprimé, ce manque.
Et enfin,
de pouvoir mettre des mots et de communiquer déjà de manière générale, mais voilà, de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ses besoins et de savoir les exprimer, de les comprendre et ensuite de savoir les exprimer. C'est peut-être déjà deux travaux différents, mais ça permet aussi justement d'être dans une vraie communication, dans quelque chose de réel en fait, de sincère et d'authentique effectivement.
Et du coup, là, tu mets un point important, enfin, tu me fais penser à un point important, c'est que nous sommes responsables de nos sentiments et de nos besoins. Donc, si j'ai un besoin de sécurité, c'est d'abord de moi à moi qu'il faut que je trouve un moyen de le mettre en place. Et après, de me créer l'espace où je goûte cette sécurité. Mais les autres ne sont pas responsables de mon insécurité. Il y a quelque chose... Alors après, ça veut dire aussi que quand tu es dans un endroit où tu te sens vraiment insécure, tu te barres. Tu te barres, tu agis pour ta sécurité. Tu n'es pas responsable du comportement des autres, mais en même temps, tu n'es pas obligé de le subir. C'est vraiment prendre sa responsabilité de ses besoins et de ses sentiments. Donc, les besoins, ça va vraiment influencer sur notre choix de recevoir les actes et les paroles et les besoins et attentes à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on est face à une conversation, c'est vraiment dans quelle disposition je me mets. Est-ce que je suis en sécurité avec moi-même et à partir de là, je sais peut-être contribuer aux besoins de l'autre ou pas. Et puis, surtout, prendre soin des miens. Et voilà, donc ça dépend de pas mal de choses. La dernière axe, j'avais noté aussi accepter la responsabilité de nos sentiments et de nos actions. Et des actions qui génèrent ces sentiments. Et aussi, nos besoins vont être très très stimulés parce que face à un message, on va dire négatif, même si ça c'est pas une observation du tout, on est d'accord. On réagit souvent de quatre façons. page 71.
on prend les notes. Attends, c'est normal. Elle vient équipée. Attends, on va pas se plaindre que vous prépariez vos émissions.
Le bouquin de Marshall, il est vraiment, c'est une bible à laquelle tu peux te référer régulièrement. Okay. C'est un bouquin pratique, quoi.
Je suis vraiment désolée. Alors, la première possibilité, c'est de se sentir fautif en y entendant un reproche ou une critique. Tu es l'individu le plus égoïste que j'ai connu, nous dit une personne en colère. En choisissant de nous sentir visés, nous pourrions nous dire « j'aurais été plus sensible » ou « nous acceptons le jugement de l'autre et nous accablons de reproches ».
Oh, pourquoi tu me regardes?
Cette option nous fait baisser dans notre propre estime en favorisant des sentiments de culpabilité, de honte et de dépression. La deuxième façon de réagir est de rejeter la faute sur l'autre. En réponse à la phrase ci-dessus, nous riposterions par exemple « Tu n'as pas le droit de me dire ça, je suis toujours à l'écoute de tes besoins et c'est toi qui es égoïste ». Lorsque nous recevons des messages de cette façon et retournons le reproche à notre interlocuteur, nous risquons d'éprouver de la colère. La troisième possibilité, c'est de porter notre attention sur nos propres sentiments et besoins. Nous répondrions alors, lorsque je t'entends dire que je suis l'individu le plus égoïste que tu n'aies jamais connu, je me sens blessé. Parce que j'ai besoin que les efforts que je fais pour prendre en compte tes préférences soient reconnus. En nous focalisant sur nos propres sentiments et besoins, nous prenons conscience du fait que notre sentiment provient d'un besoin de reconnaissance. Enfin, quatrième possibilité consiste à diriger Diriger,
ouais. Ça peut marcher aussi.
Petit temps de recul.
Diriger notre attention sur les sentiments et besoins de l'autre tels qu'ils sont exprimés. Nous pourrions ainsi répondre par la question « Te sens-tu blessé ?» parce que tu aurais besoin que tes préférences soient mieux prises en compte. Au lieu de blâmer les autres par les sentiments que nous éprouvons, nous en acceptons la responsabilité en les reliant à nos propres besoins, désirs, attentes, valeurs ou pensées. Soulignons la différence entre la formulation et suivant, voilà. Bref, c'était plus dans le texte, on fera une coupure. Mais du coup, c'est ça. C'était vraiment important de prendre ces réactions face à des messages négatifs parce qu'on est souvent confronté à des personnes qui vont nous poser des étiquettes. Qu'elle soit positive ou négative,
ou pas, hein. Ouais, c'est ça.
Enfin, qu'elle soit jugée positive ou négative. Et puis, du coup, la façon dont on va la prendre, cette étiquette, elle peut nous abîmer. Elle peut relancer tout un système de pensée qui va pas nous respecter. Et du coup, c'est pour ça que je voulais mettre ça en avant pour qu'on puisse travailler. À se libérer de ça et à transformer ça. Et le dernier, c'est demande. Donc la demande, c'est une fois que j'ai vérifié à l'intérieur quels sont mes besoins, que j'ai vu par exemple que moi je peux y répondre, mais peut-être que toi tu peux y contribuer d'une certaine façon. Par exemple, je suis fatiguée, épuisée, vidée, et je demande à mon mari de préparer le repas. Voilà, c'est une demande. Je suis fatiguée, est-ce que tu peux préparer le repas ? Et là, si je suis vraiment en CNV, je suis juste dans l'écoute de sa réponse. C'est-à-dire, soit il me dit oui, soit il me dit non. Et je suis capable d'entendre un non. Sans me dire, sans rentrer dans le chantage affectif qui serait tellement facile à ce moment-là, de « ouais, mais je suis fatiguée, et puis tu m'aimes pas !» Non, non, c'est juste « ok, t'es pas ok, mais du coup, comment on peut faire ?»
Parce que moi non plus.
Moi aussi, je suis crevée, donc tu veux pas le faire. Du coup, quelle solution on trouve pour que ça corresponde à nous deux, quoi, et qu'on se respecte. Et donc, c'est vraiment ça, le processus. Donc, je rappelle, c'est O, observation, où on est vraiment sur la description de ce qui est. Le sentiment, donc ce qui se passe provoque quelque chose en moi, le sentiment, donc j'identifie le sentiment. Et puis, ce sentiment, ça veut dire qu'il me manque quelque chose ou que j'ai besoin de quelque chose. Donc là, je vais aller goûter les besoins et la demande, c'est-à-dire que je vais trouver une solution pour répondre à mon besoin ou demander à quelqu'un de l'extérieur de contribuer à mon besoin. Voilà. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on avait envie de vous partager sur la communication non violente. Et dans cette pause musicale qui arrive tout de suite, on voulait vous proposer « See Me Beautiful ». Donc, c'est une chanson qui, à la base, a été écrite par Marshall Rosenberg et qui montre vraiment « Vois la beauté en moi ». Et pour la petite anecdote, donc c'est très drôle parce que Marshall Rosenberg a fait un stage dans un lycée et donc il avait travaillé avec les enfants et il leur avait appris la chanson et tout ça. Et quand il est revenu la semaine d'après pour travailler avec les professeurs lui ont dit « Marshall, est-ce que tu as conscience des diables que tu as créés, des monstres que tu as créés ?»
Oh, sympa.
Alors il dit « Non, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et les profs lui racontent qu'à chaque fois que les profs arrivent et veulent faire une critique ou un jugement à l'élève, les élèves se prennent par les bras et chante « See me beautiful
». C'est génial.
Donc, j'ai trouvé ça génial et c'est très drôle. Allez, donc, « See me beautiful ».
Et là, c'est la version du coup de White Grammar qui a repris donc ce morceau de Marshall Rosenberg.
Oui, parce que Marshall, il avait l'habitude de la jouer en session, en atelier, mais il faudrait vraiment qu'il accorde sa guitare. Ouais.
Du coup, on écoute la version de Red Grammar avec des guitares accordées.
Accordées.
C'est parti.
See me beautiful. Look for the best in me. It's what I really am and all I want to be. It may take some time, it may be hard to find, but see me beautiful. See me beautiful each and every day. Could you take a chance? Could you find a way to see me shining through everything I do, and see me beautiful. See me beautiful. Look for the best in me. It's what I really am and all I want to be. It may take some time, it may be hard to find, but see me beautiful. See me beautiful.
Jimmy Beautiful, vous êtes toujours dans Cheminons dans la Transition, l'émission de l'IG de l'Ijourdain en Transition sur les ondes de Radio Philo avec ses deux animatrices stars, bien sûr, Pauline et Cinzia. On arrive dans les 10 dernières minutes de l'émission et du coup, on passe à l'agenda, un petit peu des choses qui vont se passer dans les semaines à venir, dans ce mois de février. C'est toi qui t'y colle, Pauline.
Oui, alors on a quelques événements, ouais. Donc c'est un peu léger au mois de février. En ce qui concerne l'IGET, on a demain, samedi 31 ouais. janvier, après-midi, en partenariat avec la MJC, mais le oui. Répar Café. Donc venez, venez bricoler avec nos bénévoles et apprendre à réparer vos petits objets en panne. On a aussi le dimanche...
Par rapport au Répar Café, ouais. je voulais juste ajouter une information. Récemment, il y a eu un atelier par rapport au numérique et pour pouvoir passer à Linux ou des choses comme ça. Mmh. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui veut prendre un temps durant le Répar Café pour montrer que passer à Linux, c'est pas si compliqué que ça.
Ok, et... non, un petit point informatique en
oui,
tout cas.
Oui, informatique pour montrer comment on passe à Linux.
Ok, ça marche. Mmh.
Oui. Et donc après, on a les libellules qui n'hibernent pas, elles. donc elles proposent un atelier en partenariat avec entre Gers et Ciel là, de Marie-Pierre Léou, qui le dimanche 1er février après-midi, il reste une place pour apprendre à faire des graines germées.
Ok.
C'est un atelier pratique qui se passe à Giscarreau chez Marie-Pierre.
D'accord.
Voilà pour ce qui est de l'IGET. On a notre partenaire préféré, Doriane Herrera, qui propose des ateliers vannerie sauvage au mois de février. Donc allez voir son site, l'atelierherboriste.com, où elle a un agenda, elle propose énormément de choses. Okay. Et je voulais aussi, alors là c'est moi, Pauline, Wanani, et pas l'IGET. Mais en fait, j'ai écouté une visio de Salomé Saké qui, je reprends ses mots, la démocratie ne meurt que si on la laisse mourir. Et on passe dans une phase de campagne municipale, on le sait, le 15 et 22 mars, il faudra, si vous avez envie, aller voter pour une nouvelle équipe municipale. Et en ce moment, il y a beaucoup de concertations des différentes listes. C'est ça que je voulais, si vous voulez donner votre voix ou avis, ou pourquoi pas s'engager dans la vie démocratique de votre territoire, c'est en ce moment.
Ah ouais, voilà. On est vraiment...
Donc allez voir toutes les propositions des différentes listes. C'est très intéressant d'aller dans ces réunions de concertation et écouter, avoir et donner notre avis. Je trouve ça...
Oui, c'est ça. Et sortons aussi du truc, en gros, où il n'y a que les présidentielles qui sont importantes. Au contraire, peut-être que justement, si vous voulez faire bouger votre ville locale, c'est vraiment là. On parle souvent, évidemment, des présidentielles, des législatives, mais les élections municipales ont tout autant leur importance, en fait. Parce que là, c'est vraiment votre politique territoriale, la politique de votre ville, de votre village, qui s'en dessine quoi. Donc allez au moins vous renseigner, allez vous engager, allez suivre, allez donner votre avis, parce qu'il y a plein, comme tu dis, il y a plein de réunions, des moments de d'échanges. Donc si vous voulez vous faire entendre, c'est vraiment le moment, parce que là c'est vraiment la vie de votre ville, de votre village, de votre petit territoire qui est en jeu, si on peut le dire comme ça. Donc n'hésitez surtout pas, elles sont tout autant importantes, voire même plus que d'autres élections, surtout pour votre quotidien, pour votre vrai quotidien, c'est celle-ci qui compte peut-être le plus, quoi. Ouais.
Pour le monde réel.
Ouais, c'est clair, c'est clair. For sure.
For sure. Ah, tu l'as vu, ça. Tu l'as mis.
Pardon, je pouvais pas m'en empêcher. J'ai pas les lunettes adéquates, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que t'as d'autres choses, Pauline? Du coup, c'est tout bon?
C'est bon.
Eh ben, ça marche. Ouais. Donc, on arrive donc à la fin de cet épisode donc de février de Cheminons dans la tradition sur ces belles paroles.
Je sais pas s'ils ont la ref.
Je pense que franchement, tant pis. Tapez For sure sur Internet. Vous allez avoir une référence qui va vous apparaître très rapidement. Une très bonne fin de journée à toutes les deux. On se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode des Cheminons dans la transition. Bonne journée à toutes et à tous. Ciao.
Mes amis, c'est vraiment le bazar sur cette belle planète.
Non, rien n'est dû au hasard. L'homme n'est vraiment pas net. L'homme n'est vraiment pas net.